Radio Okapi.
À l'ouverture de ce journal, nous faisons le point de la situation de l'épidémie de monkeypox en RDC, particulièrement dans la province du Kwango, qui enregistre 32 malades, dont un décès. Le trafic interrompu ce matin entre la ville de Goma et le territoire de Nyiragongo Nord-Kivu à la suite du meurtre des civils hier. Des jeunes en colère ont barricadé la route pour exprimer leur désolation face à ces drames qu'ils attribuent aux forces de sécurité de la place. L'invitée du journal est la coordonnatrice en charge des questions des violences basées sur le genre au sein du Fonds des Nations Unies pour la population en Ituri. Brigitte Omar nous parle de ces violences dans cette province en proie à l'activisme des groupes armés. Madame, messieurs, bonjour. Grâce Amzati est à la présentation de ce journal. Épidémie de monkeypox en RDC, la province du Kwango, enregistre 32 cas confirmés, dont un décès depuis le début de l'année. Au moins 6 zones de santé sont touchées sur les 14 que compte la province. Le contact physique avec les personnes atteintes et les animaux morts sont à la base de la propagation de cette maladie, selon les coordonnateurs du programme élargi de vaccination PEV Kwango qui livre l'information. Le docteur Léon Makambu plaide pour un appui financier et logistique pour dénicher les cas qui traînent dans la communauté. On l'écoute.
La province, à travers la surveillance épidémiologique, à partir de la base jusqu'au niveau de la DPS, nous avons déjà notifié 32 cas de MPOX et un décès. Dans la zone de santé de Kenge, qui vient en tête avec 13 cas, et le décès a été constaté dans la zone de santé de Pandi. Il y a 6 zones qui notifient et les restes des zones sont silencieuses. Il y a la zone de santé de Kenge, la zone de santé de Kitenda, la zone de santé de Mwelalembo, de Kasongolunda, de Pandi et de Boko. Ce sont les 6 zones de santé qui notifient régulièrement. La maladie est en train d'être notifiée dans la province. Elle évolue de façon crescendo. La prise en charge, elle est locale. Sans appui, nous sommes en train de nous baser sur les signes cliniques que le malade présente. Mais ça demande un appui consistant pour une investigation régulière et permanente afin surtout de booster les zones de santé qui sont silencieuses.
Et en Ituri, 6 cas suspects de cette épidémie sont notifiés dans des zones de santé dans la province. Dans une communication faite à la presse locale ce vendredi, le médecin-chef de la division provinciale de la santé, le docteur Michel Lola Loai, indique que 2 cas ont été enregistrés dans la zone de santé de Bounia, 2 autres à Mambasa Centre et 1 à Nyanya. Le dernier cas a été signalé jeudi à Chomia, sur le littoral du lac Albert. Il précise que sur les 5 échantillons déjà expédiés au laboratoire de l'INRB ici à Kinshasa, les 2 de Bounia ont été déclarés négatifs et pour ceux de Mambasa et Nyanya, les résultats ne sont pas encore disponibles. Le docteur Michel Lola indique que tous ces cas notifiés sont pris en charge cliniquement et aucun décès n'est enregistré jusque-là. Santé toujours. Dans le territoire de Beni, au nord Kivu, l'hôpital général de référence de Kamango éprouve des difficultés majeures depuis plus de 3 semaines. L'origine du problème est un coup de tonnerre qui a incendié le bloc opératoire, endommageant gravement le système d'électrification de l'hôpital. Cette catastrophe a plongé l'hôpital dans une situation critique, rendant les soins aux malades extrêmement difficiles. Junior Ngozi, médecin directeur de l'hôpital général de référence de Kamango, appelle à une aide urgente. Il est au téléphone de Guylaine Kassassia.
Le service de néonatologie est non fonctionnel. Nos couveuses, nos tables chauffantes, puisque leur utilisation dépend du courant qui doit être permanent et stable. Depuis cette période-là, les 8 cas qu'on a enregistrés, on a pu stabiliser 3 avec des techniques rudimentaires et 2 sont encore en difficulté jusqu'à présent. Il y a de l'imagerie qui n'est plus fonctionnelle. Des fois, nous sommes tentés d'agir sans avoir une précision par rapport à cet examen des diagnostic. Et même pour les patients, lorsque c'est une extrême nécessité, imaginez l'hôpital le plus proche de notre zone, ça doit être Oicha ou bien Beni Mutwanga, dont la voie de sortie n'est pas facile. Pour la chirurgie, les blocs restent toujours fermés et nous nous occupons principalement des urgences. Un patient qui devrait être sous oxygène au-delà de 12 heures, peut-être au bout de 2-3 heures seulement, la fonctionnalité du groupe électrogène pose problème. En soit, l'hôpital est tellement affecté, nous continuons à pousser les cris d'alarme pour que les hommes de bonne volonté puissent penser à cette population.
Ici dans la capitale, pour lutter contre les inondations, le gouverneur a lancé l'opération d'écurage des rivières de la ville ce vendredi à la rivière Kalamu au port d'Imbi dans la commune de la Gombe. Selon Daniel Bumba, qui appelle les Kinois à ne pas jeter les immondices dans les rivières, cette activité s'inscrit dans son programme dénommé Kin Ezobonga. Daniel Bumba est au micro d'Étienne Lissumbo.
L'opération coup de poing nous a permis par un de nos partenaires qui est justement l'OVD, un organe technique à notre disposition pour nous permettre de lancer cette opération. Il s'agissait de draguer quand même cet émissaire pour pouvoir créer le vrille de cette rivière, afin de permettre de faciliter les opérations d'écurage qui se font en amont. Donc nous, ce que nous attendons, qu'il n'y ait plus de morts à chaque fois qu'il y aura de pluie torrentielle. Et nous pensons que nous sommes engagés dans ces combats et à terme nous aurons des résultats. Et nous voulons que quand il y aura des pluies, quand il y aura qu'il n'y ait pas des inondations, que les personnes juste après vaquent à leur occupation. C'est de ces Kinshasa-là que nous voulons. Donc à terme, l'objectif c'est zéro mort, c'est zéro inondation à travers ces opérations. Il y a une dizaine, disons, des émissaires comme ça dans la ville. Et à travers cette dragline, nous allons curer partout. Nous allons faire cette opération de dragage partout. C'était une première. Ils vont commencer par d'abord racler. Et après, ils vont tirer le sable du lit. Et ça va faire tout le long du fleuve pour pouvoir permettre à ce qu'il n'y ait pas d'inondation.
Comme dit dans les titres, au Nord Kivu, un mouvement de colère de la population empêche depuis ce matin la circulation entre la ville de Goma et une partie du territoire de Nyiragongo. La principale voie mène vers Munigi et jonchée des pierres et autres barricades, rendant impossible toute circulation. Les manifestants, principalement des jeunes de Nyiragongo, dénoncent le meurtre dans la soirée d'hier des deux personnes au village Buhombo, dans le groupement de Munigi. Ils attribuent ces décès aux éléments des forces de sécurité qui traquent les conducteurs des taxis-motos au-delà des 18 heures. C'est en tentant de tirer sur un motocycliste qui s'échappait que les balles ont atteint des civils innocents. La société civile de Nyiragongo demande au gouverneur du Nord Kivu de tirer les conséquences causées par cette mesure. On écoute les propos de Thierry Gassisiro, rapporteur de la société civile de Nyiragongo, dans cet extrait choisi par Chris Mukand.
La fois passée, c'était au village Turunga où les gens sont morts à cause toujours de cette fameuse traque de motards au-delà des 18 heures. Et hier, c'était au niveau de Bugamba où un motard aussi a reçu des balles. Et voilà, aujourd'hui encore, deux personnes viennent de mourir dans cette toujours opération d'interdisant les motards de circuler avec leur moto au-delà des 18 heures. Que tous ces motards-là qui s'abstiennent à obtempérer à la décision du gouverneur de province, leur interdisant de circuler au-delà des 18 heures, qu'ils comprennent que ce sont leur vie qu'ils mettent maintenant en danger, car non seulement qu'à 18 heures, il y a des militaires et des policiers qui les pourchassent, mais voilà qu'ils sont en train d'être tués. Et donc, que chaque motard, une fois 17 heures qu'il travaille vers chez lui, et pour qu'à 18 heures, que le motard soit déjà à son domicile. Sinon, comme ça, ils s'exposent et ils mettent en danger leur vie et la vie de leurs compatriotes. Mais que le gouverneur puisse franchement revoir sa décision, car ça ne résout rien sur les plans sécuritaires. Au contraire, ça empêche la situation sécuritaire dans les territoires de Nyiragongo et dans la ville de Goma.
Le porte-parole du gouverneur n'a pas encore réagi à ce sujet. Parlons du conflit Mbole-Lingola dans la province de la Tchopo. Un meurtre s'est produit jeudi dans la soirée à 25 km de Kisangani, en aval du fleuve Congo. De nombreuses autres personnes sont blessées. Ce drame a provoqué un mouvement de population vers Yakusu, en direction de Kisangani. Quelles sont les circonstances de ces cas de meurtre? Les explications avec Jacques Mukonkole.
Des informations rapportées par la société civile locale indiquent que l'incident s'est produit vers 19h à Yalisombo, une localité de la commune urbano-rurale de Lubunga. La victime dénommée Dimanche et un de ses amis s'apprêtaient à regagner le village au moment où ils ont été surpris par des assaillants dans la forêt. L'un a réussi à se sauver, tandis que Dimanche a été capturé avant d'être exécuté tragiquement. Beaucoup d'autres personnes grièvement blessées sont signalées dans ce village, pris d'assaut par de nombreux assaillants. Le président de la société civile Sauti à Lubunga, prince héritier Isomela, demande une fois de plus aux autorités d'imposer la paix dans ces milieux.
Les autorités ont tout intérêt de s'impliquer très rapidement pour que la paix durable s'impose dans la commune de Lubunga, dans la ville de Kisangani et dans la province de la Tchopo.
Hier, les autorités ont dépêché une équipe mixte de la police et des FRDC pour maintenir l'ordre public. Rappelons que le conflit foncier est à l'origine de cette crise qui dure depuis plus d'une année. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Province du Tanganyika, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés annonce la fermeture du site des déplacés de Kikoumbé, situé à une dizaine de kilomètres de la ville de Kalemie. Dans une conférence de presse ce vendredi à Kalemie, le ACR précise que cette activité entre dans le cadre du programme d'appui aux solutions durables pour les personnes déplacées internes. Des précisions avec Paul Munanga.
La pacification et la sécurisation de la zone ainsi que les désirs volontaires de plusieurs déplacés de retourner dans leur milieu d'origine ou d'aller vivre ailleurs sont les raisons qui expliquent la fermeture du camp des déplacés de Kikoumbé. L'associé à la protection à base communautaire OHCR sous délégation de Kalemie indique que plus de 1200 ménages sont identifiés sur le site. 1063 ménages qui ont désiré retourner vont recevoir du cash pour leur relocalisation. Didier Bakajika souligne que 213 ménages qui ont choisi de rester sur place pour l'intégration locale vont bénéficier d'un kit-abri. Signalons que le site des déplacés de Kikoumbé a été installé en 2017, à l'époque où il y a eu intensification du conflit Toa-Bantou. Les déplacés proviennent de Kalemie et des différents territoires de la province. Et depuis 2018, le HCR a déjà fermé 8 sites de déplacés dans la province du Tanganyika, précise Rose Kalongo, point focal au HCR Kalemie qui coordonne les camps des déplacés. Précisons que la fermeture officielle du camp des déplacés de Kikoumbé est prévu la semaine prochaine. Kalemie, Pole Munanga, Radio Okapi.
Direction la ville de Matadi au Congo central. Les petits commerçants qui vendent des objets classiques ont du mal à écouler leurs marchandises. La cause, selon eux, c'est la vente en détail par les grossistes au détriment des petits commerçants en violant les dispositions légales. Pour remédier à cette situation, plusieurs détaillants rencontrés ce vendredi par Radio Okapi dans les différents lieux de négoce de Matadi demandent au gouvernement provincial de réglementer le commerce en gros et en détail en signant un arrêté en cette matière. Le point avec Nana Plurichimambo.
Du marché Mvodo au marché d'Amar, les vendeurs des objets classiques ont les mêmes doléances. Pas de vente, car les acheteurs fréquentent plus les grands magasins des grossistes où les articles tels que les cahiers, les lattes et autres ardoises sont vendus aussi en détail en violation du décret loi du 11 octobre 2021 interdisant les commerçants étrangers d'exercer les petits commerces. Liliane Ndouzi, vendeuse devant l'hôtel Fortune en ville basse, les témoigne.
C'est seulement Betesco qui respecte cette disposition en vendant en gros et en demi-gros. Mais d'autres expatriés vendent en détail des cahiers et des lattes dans leurs magasins.
Le chef de division provinciale de l'économie qui a fait la ronde de ces grands magasins dit avoir fait le même constat. Corneille Moukini.
Nous avons tiré les oreilles des opérateurs économiques. Celui qu'on trouvera sera sanctionné sévèrement par la loi.
Et pourtant, pour remédier à ces manques à gagner dont sont victimes les petits commerçants nationaux, en 2023, le ministère provincial de l'économie avait initié des rencontres avec la Fédération des entreprises du Congo et la Corporation des petites et moyennes entreprises, où a été vulgarisé et distribué les textes de la loi réglementant les commerces en RDC. Mais jusqu'à présent, ces grossistes ne s'y conforment toujours pas. Matadi, Nana Plurich Mambu, Radio Okapi.
Cette autre nouvelle, au Kassai Oriental, c'est ce samedi que s'ouvre à l'hôtel Métropole de Mbujimayi le premier forum économique sino-congolais sur les mines. Ce rendez-vous économique est organisé par la société minière de Bakwanga Miba, un forum qui s'inscrit dans le cadre d'attirer les investisseurs internationaux pour les opportunités d'affaires et d'investissement dans les domaines miniers, de l'énergie et de l'agriculture. Plus de détails avec Esther Dalafina.
Plus de 60 investisseurs chinois, un grand nombre d'opérateurs économiques congolais, quelques experts du secteur des mines, de l'énergie, de l'agriculture et des infrastructures qui participent à ce premier forum économique. 5 gouverneurs de provinces issus du Grand Kassai vont présenter aux participants les potentialités susceptibles d'être exploitées dans leurs entités administratives. L'ambassadeur de Chine en RDC est à cet effet attendu ce samedi en Mbujimayi. Il a été précédé dans la province par le vice-premier ministre de la Défense et ancien combattant Guy Kabombo ainsi que de la vice-ministre de l'Intérieur Eugénie Tchela Kamba. Rappelons qu'il y a près d'un mois, la société minière de Bakwanga, organisatrice de ce forum, s'est dotée des outils de production pour la relance de ses activités minières. La MIBA compte près de 13 à 14 massifs kimberlitiques sur lesquels les sondages des teneurs et des structures ont été effectués par le centre Géostat. Malgré cela, la société attend toujours des capitaux frais évalués à plus de 450 150 millions de dollars pour sa relance effective, d'après le plan élaboré l'année dernière par le COPIREP, Comité de pilotage de la réforme des entreprises du portefeuille de l'État, en collaboration avec le Conseil présidentiel des veilles stratégiques et le Conseil d'administration de l'AMIBA. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Les discussions sur le conflit au Soudan ont pris fin ce vendredi à Genève. Débutées le 14 août, elles se sont achevées sans aboutir à un cessez-le-feu, mais avec un engagement pris par les belligérants de garantir un accès sûr et sans entrave à l'aide humanitaire sur trois routes principales dans le pays, en proie à un conflit depuis avril 2023.
L'invité.
Plusieurs cas de violences basées sur le genre à la suite des atrocités des groupes armés sont enregistrés en Ituri. Au premier semestre de l'année en cours, au moins 6000 victimes ont bénéficié de l'accompagnement des organisations qui œuvrent dans ce secteur. D'après les Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, le territoire des Djougou est la zone la plus touchée en raison de la vulnérabilité des populations en déplacement. Pour en parler, nous recevons Brigitte Omari, coordonnatrice du sous-cluster des violences basées sur le genre à UNFPA en Ituri. Elle s'entretient avec Martial Kizabiamongo.
Madame Brigitte Omari, bonjour.
Bonjour.
D'abord, pour commencer, c'est quoi les violences basées sur le genre?
Merci. La violence basée sur le genre, c'est un terme générique qui constitue un acte nuisible perpétré contre la volonté d'une personne et basé sur les différences sociales attribuées entre les hommes et les femmes.
Alors, quel état des lieux dressez-vous du cas des violences basées sur les genres répertoriées dans la province de l'Ituri à ces premiers semestres de l'année 2024?
Je pourrais parler juste des tendances par rapport à la collecte que nous sommes en train de réaliser avec les acteurs membres du sous-cluster VBG en Ituri. Les tendances démontrent qu'on connaît une recrudescence de ces cas dans la province de l'Ituri et avec un accent particulier dans les territoires de Djougou, Maagi, Irumu et aussi Mambasa. On est déjà, selon ces tendances, au-delà des 6000 cas pour le premier semestre, ce qui n'est pas vraiment minimisable.
Quelles sont les zones les plus touchées par ces abus?
Bon, je parlais plus des Djougou parce qu'il y a pour le moment beaucoup de déplacements des communautés suite aux atrocités qu'il y a là entre les conflits et les groupes armés. Et au-delà de ça, dans les communautés d'accueil, il y a vraiment une forte promiscuité. Il y a aussi le faible moyen de survie, ce qui les laisse développer des mécanismes illégaux de survie, tels que les sexes et des survies. Tous ces aspects-là font en sorte qu'il y ait de plus en plus de cas de VBG. Nous voyons aussi même dans les sites des déplacés tous les aspects nécessaires pour qu'on ait un cadre protecteur ne sont pas réunis dans tous les sites. Alors, ça expose aussi les femmes, le fait qu'il n'y ait pas assez de lumière pour eux, qu'il n'y ait pas de toilettes bien construites, telles qu'ils pensaient vivre.
Alors, comment votre organisation compte contribuer dans l'éradication de ces fléaux qui prend de l'ampleur dans la province de l'Ituri?
Bon, UNFPA travaille sérieusement sur la question. Nous sommes en train de renforcer de plus en plus les capacités des acteurs à pouvoir dresser cette question des violences basées sur les genres. Nous mettons à disposition les outils de collecte des données à jour, notamment les circuits de référencement, qui reprend tous les services disponibles auprès desquels les survivantes pourraient se rendre pour bénéficier de l'aide. Au-delà de ça, nous travaillons aux côtés du ministère de la Santé en renforçant aussi les capacités des prestataires sanitaires et en mettant à leur disposition les kits post-viol pour la prise en charge des cas. Et sans oublier l'aspect très important aussi de la prévention, la sensibilisation à tous les niveaux. Et pour le moment, nous sommes en train de mettre en œuvre des grands projets dans le secteur de l'éducation et aussi dans le secteur de la santé où nous luttons contre les abus et exploitation sexuelle dans ces milieux-là, avec le financement de la Banque mondiale.
Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans la lutte contre les violences basées sur les genres dans les communautés affectées?
Bon, les difficultés sont énormes, comme je vous ai dit. Le premier défi que j'ai pu évoquer, c'est le financement minime pour le moment qu'on a pour les activités tant de prévention que de réponse aux violences basées sur les genres. Cela est observé à tous les niveaux, que ce soit au niveau des agences jusqu'au niveau des organisations locales. Et c'est une situation qui ne nous permettra pas de pouvoir pouvoir couvrir totalement la zone, bien que les besoins soient identifiés ça et là.
Comment faites-vous pour aller rencontrer les communautés affectées par les violences basées sur les JAR dans les zones qui sont contrôlées par les groupes armés?
Dans notre rôle de coordination, un travail de titan a été abattu. Nous avons eu des descentes dans les territoires et où la coordination a mis en place le sous-groupe de travail VBG. Donc, au travers les organisations locales et nationales qui sont basées dans ces coins, on les a constituées en sous-groupe de travail et qui interagissent avec nous à temps réel. On a pris aussi le temps de former les collides qui sont là-bas pour pouvoir orienter les autres par rapport au travail qu'ils doivent abattre dans la communauté.
Madame Brigitte Omari, merci.
Notre invité répondait aux questions de Martial Kiza Biamungu. 15h20 dans ses studios. Par ici s'achève ce journal coordonné par Jacques-Yves Molima et supervisé par Alain Rung. Pierre Diassino a assuré la mise en onde à la présentation grâce à Mzati Masanzi. Merci de nous avoir suivis.